voyage, accordez à vos enfants la même protection. Soutenez-nous dans les dangers et allégez nos marches. Soyez-nous une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Portez-nous dans nos fatigues et défendez-nous contre tout péril. Soyez le bâton qui évite la chute et le port qui accueille les naufrages, afin que, guidés par vous, nous atteignions avec certitude notre but et revenions sains et saufs à la maison. Et maintenant, quelqu'un du groupe poussait le cri de ralliement et d'encouragement des marcheurs de Dieu.
Et Ultreia!
Et Ultreia!
Et Suseia!
Et Suseia!
Deus Ayanos!
Deus Ayanos!
Alléluia!
Claire de Castelbajac, c'est une jeune fille de la région qui est morte à 21 ans. Et quand elle est morte, tous ceux qui l'ont connue ont dit à ses parents, mais il faut absolument que le souvenir de Claire se garde. C'était une fille extraordinaire, il faut absolument pas qu'on perde son souvenir. Alors ses parents ont recueilli les lettres, tout simplement, de Claire, et ils ont fait un premier livre, le livre blanc, et ils nous l'ont apporté parce qu'ils nous connaissaient, tout simplement. Et puis, il faut savoir que notre communauté n'avait pas eu de vocation depuis 30 ans. Sauf une. Et donc, ça devenait inquiétant, les sœurs n'étaient plus que 5. Et à ce moment-là, notre mère a lu donc le livre sur Claire, a été enthousiasmée, et notre père général aussi. Il a été enthousiasmé, et il a dit, mais Claire est canonisable, c'est la sainte qu'il faut pour les jeunes de maintenant, il faut qu'elle soit canonisée, il faut qu'elle fasse des miracles. On va lui demander son premier miracle pour Boulogne, 5 vocations dans l'année. Alors, notre mère prieure lui a dit, vous avez une, ça c'est déjà un miracle. Enfin, non, il a dit 5. Alors, eh bien, on a prié, et puis les 5 se sont présentés dans l'année, et la première s'appelait Claire. Voilà, c'est ça, Claire. Voilà. Voilà, et depuis, les miracles continuent, un deuxième livre a été fait. Enfin voilà, et Claire continue à faire des miracles. Et alors, c'est nous qui sommes chargés de recueillir les témoignages et d'éditer les livres. Voilà.
Comment ?
Alors voilà notre rapport avec Claire.
Et maintenant, notre communauté compte 17 religieuses.
Et il y en a d'autres qui arrivent.
Il y en a d'autres qui arrivent ?
Voilà, oui.
Mais qu'est-ce que vous faites pour un apostolat ?
Nous sommes des contemplatives. Alors, notre apostolat, ce n'est pas du tout un apostolat extérieur. Nous ne sommes pas enseignantes, nous ne sommes pas infirmières, nous ne faisons pas la catéchèse. Nous sommes des contemplatifs. Notre apostolat, c'est la prière. Voilà.
Et puis l'accueil monastique.
L'accueil, ça, c'est la tradition monastique depuis toujours. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les actes de votre fondation, un peu votre fondateur, Franck?
L'histoire du monastère.
Oui. Ah bon, hein.
L'histoire qui commence à l'ordre cistercien ou qui part de beaucoup plus loin à l'ordre fontevriste. Parce que le monastère est des fontevristes à l'origine. Hein.
Vous voyagez
pas. Oh ben si, on peut commencer au départ.
Oui. Et en fait, le monastère a été fondé au XIIe siècle par l'ordre de Fontevraud. Hein. Et c'est l'abbesse de Fontevraud, Pétronille de Chemillé, pour la nommer, qui a fondé ce monastère. Et la première abbesse de ce lieu était Longue Brune d'Astarac. C'est un nom qui sonne bien gascon. Hein. Voyez. Et le monastère était conçu pour environ une vingtaine de moniales. Et l'ordre de Fontevraud qui n'a plus maintenant de monastère. Hein. C'est fini. Recruté surtout, essentiellement, parmi les filles de la haute noblesse. Hein, c'est ce qui vous explique finalement son extinction.
À la Révolution, quasiment tous les monastères sont tombés, sauf quelques-uns. Et Boulogne, entre autres, s'est relevé après la Révolution, mais ils sont très rares à s'être relevés.
S'est relevé avec les difficultés financières que vous pouvez imaginer. Voilà, jusqu'en 1904, ou alors à cette date-là, les moniales ont été expulsées en Espagne.
Elles ne sont pas revenues. La communauté s'est éteinte en Espagne.
Oui.
Oui, complètement.
Elles sont expulsées par
la République.
C'est là qu'on les accueille.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu,
le
monastère? Il y a 40 ans d'abandon qui furent l'efface. En 49.
Si, il a été quand même occupé pendant la période d'abandon par des religieuses alsaciennes qui se sont réfugiées ici pendant la guerre avec des handicapés. Mais à la fin de la guerre, elles sont reparties et nous, on est arrivés en 49.
Expliquez-nous votre horaire. Vous vous levez à quelle heure pour le lever de nuit?
Le lever du matin, disons. Eh bien, nous commençons la journée à 5h moins le quart en semaine. Et les dimanches et jours de fête, 4 heures. C'est le contraire. Vous faites la grâce matinée ces jours-là, et bien nous, au contraire, nous compensons par un lever de
soleil. On se couche très tôt.
Oui, on a une nuit tout à fait correcte, qui est peut-être meilleure que les vôtres. Nous nous couchons à 8h30. Au contraire, nous avons 4 heures avant la nuit qui sont les meilleures pour le sommeil. Eh bien, nous disons. Ah ben,
le fait des matines.
Matines, et puis après, nous avons une demi-heure d'oraison. En silence, chacune un petit temps personnel de prière et de méditation. Ensuite, nous avons l'office de l'aude pour chanter le jour qui se lève. Et puis, après l'aude, nous avons le chapitre avec la lecture du martyrologe, c'est-à-dire les saints dont c'est la fête le jour, chaque jour, hein, les martyrologes. Et puis, une petite partie de la règle de Saint-Benoît. Nous la lisons par petits bouts tous les jours, ce qui fait qu'on la lit 3 fois par an. Et je ne peux pas rappeler. Et puis, après le chapitre, on déjeune tout en communauté et en silence. Ensuite, nous avons un petit temps de travail d'une heure avant la pièce et la messe qui nous permet de, entre autres, vous savez, le petit déjeuner à l'hôtellerie, pour celles qui sont à l'étape de faire la traite. Enfin, c'est un temps de travail. Chacune a un peu son travail à faire. Puis nous nous retrouvons pour tierce et la messe à l'église. Ensuite, nous avons un temps de travail, donc de 10h jusqu'à midi moins le quart. Alors là, chacune repart au travail, les unes au jardin, les autres à l'étable. On a aussi pas mal de travaux de maison, puisque ça fait aussi toute une maison à faire tourner, la buanderie, la lingerie, le ménage, la vaisselle, la cuisine, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans une maison. Et puis à midi moins le quart, on se retrouve à l'église pour un petit office de sexte. Ensuite, on se retrouve au repas le midi, toujours en silence, avec un quart d'heure de lecture où nous lisons, chacune à tour de rôle. On fait une lecture d'un quart d'heure de livres très variés. Et puis, à la fin du repas, nous faisons tout ensemble la vaisselle. Et ensuite, généralement jusqu'à nonne, c'est-à-dire 2h30, nous prenons du temps de lecture. Dans la journée, chacune s'organise pour prendre 2 heures de temps de lecture. Alors, pour certaines, c'est juste après la vaisselle, pour d'autres, c'est à un autre moment de la journée, mais enfin, chacune s'organise pour avoir 2 heures de temps pour elle. Et c'est sur ces 2 heures qu'on prend le temps de formation,
le temps de lecture, pour écrire, pour s'informer et lire les journaux, pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, c'est un temps personnel que l'on emploie pour des tas de choses. Et aussi pour apprendre le chant, pour
apprendre le latin.
Pour la formation monastique, voilà. La formation intellectuelle, le travail intellectuel, c'est à ce moment-là.
Voilà. Et puis alors après, à 2h30, on se retrouve toutes pour l'office de nonne, suivi ensuite d'une récréation commune. C'est le seul moment de la journée où nous parlons toutes ensemble.
Alors, c'est joyeux parce que comme on est très nombreuses jeunes sœurs,
oui.
On est en silence le reste du temps.
On en profite pour se raconter des petites histoires, nous donner des nouvelles, partager des...
Faire part de nos lectures, voilà, aussi, c'est important.
On parle toutes ensemble, on s'en en profite pour faire des épluchages, on s'arrête rarement pour ne rien faire. On fait toujours quelque chose, un petit peu de couture, ou des épluchages, ou une cueillette, ou enfin, des bruits. Et puis, après cette récréation, nous retournons au travail jusqu'à vêpres, c'est-à-dire 5 heures. Après, de vêpres jusqu'au repas, c'est-à-dire de 5h30 jusqu'à 7h moins le quart, nous avons de nouveau un temps de travail. Ensuite, le repas en silence, puis nous allons accomplir le dernier office de la journée. Et après Compli, nous avons une demi-heure pour nous. Tout ça, après Compli, vraiment, c'est le silence complet. On rentre comme dans une retraite chacune. Et à 8h15, 8h30, le couvre-feu sonne et tout le monde se couche. Voilà.
Et je ne voudrais pas oublier de dire que notre dernier office de Compli donc s'achève sur le Salve Regina, puisque Notre-Dame est la première patronne de l'ordre cistercien. C'est pour ça que le 15 août, demain, c'est vraiment la grande fête de tous les monastères cisterciens. Nous nous mettons sous sa protection et chaque année, nous nous consacrons à elle ce jour-là.
Tous les mois, les moniales de l'ordre portent un hommage.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre joie d'être des sœurs franciscaines? La chose comment vous avez pu essayer.
C'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui a choisi pour nous. Alors, on a simplement dit oui.
On est joyeuse voilà. Parce qu'on a répondu à l'appel du Seigneur et rien ne peut nous combler davantage que de répondre à cet appel, puisqu'il est le Dieu d'amour, c'est lui qui nous comble. Et chaque jour, les progrès que nous essayons de faire dans notre réponse toujours plus fidèle, eh bien, sont pour nous source de joie. Voilà.
Cette vie régulière, ça, naturellement, ça vous êtes reposé, vous êtes détendu ou c'est quelque chose qui peut être stressant d'avoir autant de choses à faire
C'est très libérant, au contraire. Oui. Parce qu'on n'a pas à se poser de questions, savoir ce qu'on va faire à telle heure ou pas à telle heure, de prévoir une journée. Ah ben oui, cette vie très régulière, finalement, on est habitué à ce rythme. Et c'est un rythme dans lequel s'inscrit beaucoup plus facilement la prière. On n'a pas du tout à se poser de questions, à savoir si à telle heure ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, c'est comment organiser la journée, alors que la journée est de toute façon organisée. Alors on n'a plus qu'à penser à Dieu.
Voilà. Et ce n'est pas une question de sentiment. Dieu nous appelle à la prière, même si j'ai plus ou moins envie, j'y vais, parce que je sais que Dieu m'y appelle.
Puis il y a une chose qui est extrêmement reposante, c'est le silence. Alors, avoir toute une journée en silence, eh bien, il n'y a rien de tel pour nous aider justement à prier, eh bien, à travers les différents travaux de la journée. Le silence aide beaucoup justement pour la paix et de l'intérieur.
Et puis, la journée est organisée en fait en fonction de la prière. On revient continuellement à l'église pour prier, pour l'office, puisque c'est notre premier devoir. Bon, toute la journée on y revient, mais toute la journée on prie. Ce sont des moments qui sont plus intenses, mais tout le reste, pendant tout notre travail, on est en silence pour prier, pour méditer. Donc, toute notre journée est ordonnée à la prière. Ce rythme régulier, il est ordonné à la prière. entièrement.
Et c'est vraiment notre vocation et notre mission, c'est ce que l'Église attend de nous, comme il y a des sœurs donc chargées de soigner les malades, de faire la classe. Nous, c'est au nom de toute l'Église, du monde entier, par exemple, en ce moment, nous portons avec beaucoup de, je pourrais presque dire d'affection, vous tous jeunes qui allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça c'est une intention qui nous est très très chère, et vous savez que c'est notre rôle de vous accompagner, dans le silence, dans le recueillement, sans faire de bruit, mais c'est ça, hein, notre vocation.
Alors, dire que parfois on n'est pas un peu chargé, si. Ce serait mentir que de dire parfois qu'on ne se sent jamais fatigué ou qu'on ne se sent jamais lassé ou pressé ou stressé, comme vous dites.
Voilà.
Hein, ce serait faux. Mais ce ne sont pas des problèmes. Des difficultés, il y en a toujours, mais ce ne sont pas des problèmes.
Parce que Dieu nous y appelle, donc il nous donne la grâce. Et
puis il ne faut pas oublier que la croix est inhérente à toute vie chrétienne, à toute vie de baptisé. Et de ce côté-là, nous sommes à la même enseigne que vous.
C'est-à-dire que ça dépend maintenant, ça dépend des jours, voilà. Hein, vous savez.
L'oraison, c'est se mettre en présence de Dieu, on le regarde,
et puis c'est tout.
Et puis,
on s'oublie petit à petit pour le laisser son Esprit Saint nous pénétrer de plus en plus, et on l'écoute. Alors il y a des moments où c'est plus ou moins facile, où on a besoin d'un livre pour s'aider, et il y a d'autres moments où ça va tout seul. Voilà.
C'est en réalité, il faut se taire.
Voilà.
C'est ça le grand problème. Voilà. Si on a un petit ronron intérieur, on pourra avoir l'impression d'avoir fait une très belle oraison parce qu'on a eu de très belles pensées, mais elles ne sont pas forcément de l'Esprit Saint. Hein?
C'est pour ça que la première parole de la règle dont nous faisons profession, c'est écoute. Et pour nous, c'est toute notre vie est dans cette écoute. Et l'oraison par excellence. Et justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, l'office divin, les nombreuses heures que nous passons à l'église, c'est finalement un dialogue entre le Seigneur et nous, c'est une écoute continuelle.
Et une rumination de la parole de Dieu.
Et en réalité, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous que de méditer justement les paroles inspirées de l'Esprit-Saint, de l'Écriture ? Ce qu'on peut inventer, nous, c'est pas forcément bon. Qui est dans l'écriture, il n'y a rien de meilleur. Là, on est tranquille, on est sur le bon chemin. Alors, l'office, les psaumes que nous chantons, les hymnes des pères de l'Église, Saint Ambroise et tous ceux qui l'ont suivi, et puis, ça, il n'y a pas de doute, le chemin est clairement tracé. Par contre, nos pensées personnelles ne sont pas forcément aussi sûres.
C'est la liturgie qui vraiment nourrit toute âme bénédictine, hein, qui fait profession de la règle de Saint-Benoît. C'est-à-dire tous les textes que nous chantons, que nous lisons. C'est ça qui est notre nourriture.
Silence, tout le monde fait raison.
Quelles sont les étapes de votre formation ?
Allez.
Alors, nous avons plusieurs étapes. D'abord, quand une... Quand une jeune fille veut rentrer, elle commence par venir faire une ou deux retraites à l'intérieur de la communauté avant même de rentrer. Pour se rendre compte un petit peu de à quoi elle s'engage. Ensuite, elle rentre et elle reste minimum 6 mois jusqu'à 1 an en civil et elle regarde, elle s'engage à rien et si au bout des 6 mois elle veut partir, elle peut.
À
n'importe quel moment, elle peut partir.
Elle est postulante.
Voilà.
Mais elle vit quand même avec la communauté.
Oui, elle vit entièrement avec nous. Ensuite, si elle persévère, il y a la prise d'habit
où on la revêt entièrement de l'habit monastique blanc. Là, on est en tenue de semaine, en tenue de travail, mais vous avez vu hier, il y en a certaines qui ont un scapulaire noir, d'autres un scapulaire blanc.
Vous l'avez sûrement.
Et puis, il y en a qui ont des voiles blancs et d'autres des voiles noires. Alors, quand on est novice, on est entièrement en blanc.
Ah.
Et ça dure d'un an à deux ans. Et le noviciat nous sert de grande retraite pour approfondir la vie cistercienne et pour voir si vraiment on est pour...
C'est un temps de formation intense, oui. Où il nous est donné beaucoup pour vraiment justement acquérir le maximum de connaissances pour se préparer voilà, à la profession temporaire qui sera le premier engagement vraiment dans la communauté et la vie monastique.
C'est pareil pour un noviciat, on peut partir quand on veut.
Tant qu'on est novice, on peut encore partir. Ensuite,
ne vous inquiétez pas, on n'entre pas avec l'idée de partir. Hein.
Non, mais...
Ah, c'est fini. Hein.
Alors, si la novice persévère...
Et si la communauté...
Et si la communauté est d'accord aussi, il y a la cérémonie de la profession temporaire, c'est-à-dire que la sœur s'engage au service de Dieu pendant 3 ans. Et alors, à ce moment-là, elle prend le scapulaire noir.
Alors là, elle doit fidélité au Seigneur pendant 3 ans. Elle a fait une promesse écrite qu'elle a lue devant toute la communauté réunie dans l'église, en présence du Dieu et de la cour céleste. Et vraiment, elle a promis fidélité au Seigneur pour 3 ans. Donc, c'est un engagement très grave.
Par les vœux religieux, voilà. N'est-ce pas, d'obéissance, de stabilité et de conversion des mœurs. Voilà.
Ah,
elle ne
veut pas
partir.
Non,
cloué, rivé. 3 ans à tirer.
Voilà. Minimum 3 ans, et c'est pareil, chacune. On a tout un parcours et un cheminement personnel, et ça peut être prolongé.
Et que c'est renouvelable. Les 3 ans sont renouvelables. Si au bout des 3 ans, pour la profession solennelle, on peut renouveler pour 3 ans.
Voilà. Ou ça peut être prolongé.
On peut partir aussi.
Ou ça peut être prolongé de quelques mois, ça dépend.
Mais on n'a pas envie de partir quand même.
Si, dans le vœu d'obéissance.
Obéissance, c'est-à-dire que stabilité, obéissance et vie monastique. Alors la pauvreté et la chasteté font partie de la vie monastique. Voilà.
Et puis ensuite, au bout des 3 ans, si la communauté accepte et puis si la moniale est prête, elle prononce des vœux perpétuels. C'est-à-dire qu'elles s'engagent à vie.
Pour l'éternité.
Oui, bah.
Mais à vie, à vie.
Non, vœux perpétuels. Et à ce moment-là, elle prend le voile noir.
Voilà. Une grande fête. Voilà.
C'est comme un mariage.
Qu'elle va faire
à la fête. Ah oui, oui.
Et la coule, vous prenez la coule blanche aussi?
C'est la vie monastique par excellence, la coule. Alors là, c'est pour la profession solennelle.
Vous voyez, et on est très malheureuse.
Hein. Je ne me fais pas de vœux d'hospitalité. Puisque je vois que j'ai fait
la vie monastique. Or, la vie monastique accueille.
Voilà. Voilà. Ça fait partie, c'est la tradition monastique, l'accueil. L'accueil des pèlerins, entre autres.
Voilà, c'est vrai. Dans la règle de Saint-Benoît, qui a été écrite au VIe siècle, c'est mentionné. Vous êtes... Vous
spécialement, on accueille tout spécialement les pèlerins.
Les gens qui sont ici,
ce sont des vacanciers.
S'il y a des groupes qui viennent avec leurs prêtres ou qui leur fêchent la retraite, il n'y a pas de problème.
Il y a des vacanciers même qui sont intéressés. Disons qu'ils choisissent aussi une ambiance particulière qu'ils peuvent trouver dans un monastère.
Bon, il faudrait qu'on vous laisse parce qu'on a la même.
Merci. N'oubliez pas de nous emporter avec vous.
Priez pour nous, hein, comment c'est-elle?
Ah oui, on y compte.
Vous êtes avec nous depuis le début de la
partie. Ah ouais, chouette alors.
Claire Joie, c'est Claire de Castelbajac. Oui. je m'en doutais.
Il va y avoir quelque chose de plus là.
Vous partiez et portiez du fruit. Voilà que ce pèlerinage porte beaucoup de fruits pour tous ceux au nom de qui nous sommes partis, pour toutes nos familles, nos amis si nombreux qui n'ont pas pu se joindre à nous et que nous représentons partout où nous serons. Nous serons leurs délégués. Et c'est étonnant de pouvoir célébrer Maximien Kolbe précisément à Lourdes, précisément auprès de cette toute jeune fille qui a été comme le porte-secret du mystère de la conception immaculée de Marie, qui va tellement bouleverser la vie de Maximilien qu'il va lui livrer toute sa vie. Il va être le héros, le proclamateur, j'oserais dire l'évangélisateur de cette bonne nouvelle, de la manière que Dieu a choisi de venir dans notre monde. Et il va la répandre partout avec ses petits chevaliers de Notre-Dame, jusqu'au Japon. Maximilien est un passionné d'évangélisation. Il est bouleversé par tous les problèmes de ce siècle. Et c'est finalement pour cela qu'il va donner sa vie. S'il est emprisonné, s'il est arrêté, c'est à cause de son rayonnement sur toute la Pologne et bien au-delà, déjà jusqu'au Japon, comme je viens de le dire. Et nous sommes auprès de cette petite Bernadette qui n'a rien compris de ce mot Immaculée Conception. Vous vous rappelez comment elle devait le répéter tout le temps, Immaculée Conception, de peur de l'oublier entre la crotte et le presbytère, parce que c'est un nom tellement barbare, tellement technique, tellement bizarre. Et pour cause, elle ne savait absolument pas de quoi il s'agissait, surtout que c'était donné comme un prénom en plus. Alors c'est un peu bizarre comme prénom, c'est très compliqué. Et c'est ça effectivement qui a bouleversé le brave curé de Lourdes, qui jusque-là était très réticent. C'est en entendant sur les lèvres de cette petite fille ignorante ce mot qu'elle aurait été incapable ni de lire, puisqu'elle ne savait pas lire, ni de connaître. Et que Marie s'est donnée comme nom propre. Et c'est donc déjà tout le mystère de l'incarnation, dont je voudrais parler un petit peu à Compostelle ou à Burgos à propos de l'an 2000, mais tout ce mystère de la venue dans notre chair de Jésus, qui commence par purifier totalement sa petite maman pour que le berceau de sa vie humaine, pour que cette chair et ce sang que Dieu va recevoir de notre humanité, que nous allons donner à Dieu à travers Marie, que cette chair et ce sang soient déjà totalement purifiés au point d'être, je dirais, la chair et le sang, le corps humain tel qu'il est sorti des mains de Dieu au premier matin du monde, tel que Dieu a créé Ève dans toute sa splendeur, notre humanité d'avant le péché. Et c'est merveilleux de penser qu'il y a une d'entre nous, une jeune fille d'entre nous, qui a eu le bonheur de vivre à Nazareth, quand nous avons des représentants parmi nous, et c'est une immense grâce, et de donner son fils au monde à Bethléem. Quelle grâce de pouvoir vivre ce pèlerinage avec des délégués, des frères chrétiens de Bethléem. To the English-speaking ones, I will say off the mass all I'm saying now. So please forgive me to speak only in French. But as you don't have much time, I'll say it afterwards. Est-ce que j'en suis?
Bethléem,
voilà. Et de penser qu'il y a une d'entre nous qui n'a jamais été atteinte, même une fraction de seconde, par le mal et le péché. Et que c'est pour cela qu'il y a une bouleversante connivence entre l'Immaculé et tous les maculés que nous sommes. Tous les pécheurs que nous sommes. Et c'est pourquoi au pied de la croix, il y a l'Immaculé et il y a Marie-Madeleine, la maculée, qui retrouve, qui reçoit du sang de Jésus son innocence. Et c'est pourquoi il y a de telles complicités entre elle en son immaculée conception et puis nous dans notre péché. Mais quel bonheur, quel honneur pour nous de penser qu'il y a une de notre race en qui toute cette marée noire, j'oserais dire, de mal et de péché n'a jamais pu atteindre. Qu'elle est totalement indemne. Qu'elle est au milieu de nous telle que Dieu nous a voulu, chacun, de toute éternité. Voilà. Et tu repasses ce petit texte sur l'Immaculée. Bon, on le lira tout à l'heure pour la route, alors, pour nourrir un petit peu de la route. Parce qu'il y a encore une chose que je voudrais dire, ce Maximilien, tout à coup, il m'est venu au début de la messe, le lien entre le cachot de Maximilien Kolb et Auschwitz et celui de Bernadette. Parce que nous n'aurons peut-être pas le temps à Lourdes d'aller voir ce qu'on appelle le cachot, précisément, qui est cette petite pièce immonde, sans lumière, quand elle a été un peu arrangée depuis ce temps-là, où a vécu Bernadette. Et où elle avait faim. C'est un autre lien avec Maximilien Kolb. Vous savez qu'elle allait mendier la cire. Pas mendier, prêter en catimini, en clandestinement, quand il n'y avait personne à l'église de Lourdes, dans l'église paroissiale, la cire, pour aller manger la cire, tellement elle avait faim, la cire des bougies. Voilà. Vivant dans un cachot, presque mourant de faim. Et Maximilien Kolb, qui meurt de faim dans ce cachot d'Auschwitz. Voilà. C'est impressionnant. Et un autre lien. Maximilien Kolb, il terrorise ses bourreaux par la lumière et la joie qui se reflète dans ses yeux. Et ses bourreaux qui disent « Ne me regarde pas, ne nous regarde pas. » Parce que ses yeux, c'était déjà le ciel ouvert. Je voudrais dire ça un petit peu ce soir aussi, si j'ai le temps. Mais tout à coup, le lien avec Bernadette qui voit le ciel ouvert, qui vit dans un cachot et qui voit le ciel ouvert, qui s'ouvre. C'est assez extraordinaire. Et puisque nous sommes entre nous, je voudrais vous rappeler, et qu'on parle de cachot, une chose qui m'a beaucoup impressionné après coup, durant la Semaine Sainte. Je me suis rappelé ce que j'avais vécu à notre messe de Bethléem. Vous vous rappelez, à l'aurore, hein? Ah non, non, vous n'étiez pas mais tous
non,
là.
Ah,
même avec des privilégiés, mon Dieu. Alors, oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez raconté qu'après la messe, les sœurs de l'Emmanuel m'ont demandé d'apporter le corps de Jésus à une sœur recluse. Je vous avais raconté. Oui. Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas, une recluse, c'est une consacrée à Dieu qui a cette vocation très spéciale d'être une ermite au carré. C'est-à-dire, elle n'est pas seulement ermite, elle ne vit pas seulement dans des forêts et des vallées profondes comme notre frère Patrick, très longtemps, mais on l'enferme, et il y a un rite, même liturgique, pour l'enfermer dans une pièce d'où elle ne sortira plus de toute sa vie, et c'est l'évêque qui vient sceller la porte. Et donc, il y a cette toute jeune religieuse, elle a quel âge, Gloria? 40, par là, elle est assez jeune, tu l'as connue avant. Ah ben voilà, elle est toute jeune encore. Hein. Et alors elle est enfermée, n'est-ce pas? Tu me dis?
Il est enfermé sur elle.
Enfermée, elle ne voit plus rien. Elle a fermé les rideaux pour tout voir ce beau paysage. Et je lui ai apporté le corps de Jésus à travers un tout petit lucarne avec deux rideaux. Et j'étais là et je n'entendais rien. Je ne savais pas qu'elle était là. Tout à coup, je vois le rideau qui bouge un tout petit peu, et j'ai vu juste de quelques doigts qui venaient prendre le corps. Non, c'est les... Non, non, les doigts, la main, c'est ça, comme ça. Et je me suis rappelé le vendredi saint, en me rappelant cette histoire, une histoire qui nous était arrivée durant une de nos missions au Gabon, l'année d'avant, 2 ans avant, où nous avions été visiter des personnes en hôpitaux psychiatriques. Et qui était, enfin, soi-disant hôpital psychiatrique, enfermé dans des cachots de béton, avec juste une petite ouverture, comme ça, presque à ras du sol, où ils ne pouvaient passer que leurs mains. Et on ne voyait même pas leur visage, et avec des menottes. Et il y en avait un qui s'appelait
Apollinaire,
à qui on avait donné un chapelet. Et encore, il fallait parce qu'il y avait un espace entre le cachot et puis des grilles derrière lesquelles on était. C'était vraiment épouvantable. Et on a parlé de Marie, de l'Immaculée Conception, avec lui. Et m'est revenu le lien entre cette espèce de cachot au fin fond du Gabon et puis la petite sœur qui s'est rendue volontairement, par amour, prisonnière du Christ pour toute sa vie, pour porter dans sa prière tous les prisonniers du monde. Eh bien ça, c'est la communion des saints.
Daniel, je peux rajouter un truc par rapport à Apollinaire.
Oui, Apollinaire.
Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que le dizainier qu'on lui a remis nous avait été donné par les chevaliers de l'Immaculée, donc fondé par Maximilien Kolb.
Voilà. Chevalier de l'Immaculée à
Libreville.
À Libreville. Et vous voyez tous les liens, tout qui se tisse. Maximilien Kolb et son cachot et sa fin. Bernadette, son cachot et sa fin. Apollinaire dans son cachot avec son dizainier. Et puis la petite sœur ermite, là, qui par pur amour se fait prisonnière. Voilà. Et c'est comme cela que les traces se répandent dans le monde. La sainteté se diffuse en cachette dans le monde. Et sans le savoir, cette petite sœur, comment est-ce qu'elle s'appelle? Comment? Nazareth.
Sœur Nazareth.
C'est son nom. Ah, c'est merveilleux, sœur Nazareth. À Bethléem, c'est merveilleux, elle a tout. Eh bien, elle porte tous ceux qui sont prisonniers de leur cœur surtout. Et nous demandons à Maximilien cette libération des cœurs. Lui qui s'est offert par pur amour, pour prendre la place de ce père de famille, qui je crois vit toujours d'ailleurs, avec ses enfants, ce père de famille qui était là présent à sa canonisation à Rome le 17 octobre. C'est une chose bouleversante, cet homme qui vit grâce à l'offrande de la vie du père Maximilien. Et ça c'est vraiment la victoire de la faiblesse sur toutes les forces du monde. Je vais circuler parce que je ne l'ai pas reproduit en France. C'est une bouleversante petite photo que j'ai découvert il y a une semaine, 15 jours, d'un petit enfant chinois porté sur les bras de son père et qui joint les mains sur une mer de casques militaires. Voilà. La prière d'un enfant qui est plus puissante que toutes les puissances de ce monde, c'est bouleversant. Et ça, c'est le mystère de Bernadette dans sa fragilité, sa faiblesse, le mystère de Maximilien, complètement pauvre et démuni, qui n'a plus rien et qui sauve le monde, qui règne sur le monde. Voilà ce que j'avais sur le cœur de partager un petit peu à cette fête de Maximilien et à quelques heures de la glorification de Marie, parce que maintenant, et Bernadette et un jour Apollinaire, et un jour chacun de vous, j'espère, sera au ciel glorifié avec et comme Maximilien et Bernadette. Amen. Où personne ne pouvait savoir, le gouvernement avait interdit de mettre des plaques ou des... Et on ne savait que c'était ce cachot-là, entre tous les cachots qui se suivent, que parce que c'était toujours plein de fleurs fraîches. Chaque matin, des Polonais venaient jeter des fleurs fraîches. Et c'est comme ça qu'on savait que c'était ce cachot-là. Sinon, les guides avaient l'interdiction de signaler où était mort le père Kolb. Voilà. Et ça a changé un petit peu maintenant que la Pologne est en train de ressusciter grâce à Dieu, grâce à la foi des chrétiens. Et juste à côté, il y a le cachot où sont morts 600 prêtres catholiques polonais. 600 prêtres. Et il faut les évoquer quand on pense à Maximilien Kolb. 600 prêtres qui ont offert leur vie pour Jésus. Je crois que vous avez montré à Terre Sainte ce petit graffiti dans le plâtre fait à l'ongle. Et bien voilà, et bien c'est le jour pour s'en souvenir aujourd'hui, parce qu'eux aussi sont tous dans la gloire de Jésus. En ce moment-là.
Mmh.